Mon quotidien est fait de sensations que la plupart d'entre vous ignorent. Pendant longtemps, j'en ai eu honte. Je me souviens très bien des circonstances dans lesquelles j'ai découvert cette différence. J'avais 4 ans et j'ai voulu exprimer à ma mère la joie que j'ai ressentie en regardant le soleil à travers une feuille. Et je lui ai parlé non pas de la feuille en tant que telle, mais des couleurs et des sensations qui étaient causées par ce que j'avais ressenti en voyant la feuille. Ces lignes jaunes et vertes, ce goût très particulier, à mi-chemin entre le sucre, la menthe, le concombre, qui me venait en suivant les nervures et en imaginant toute une série d'avenirs possibles, l'imagination comme un brouillard doré, la joie comme une eau miroitante. Elle m'a juste prise pour une folle. Et puis, donc je l'ai cachée, et en grandissant, j'ai été frustrée de garder ces perceptions qui me semblent très belles pour moi, et j'ai tenté de les représenter dans ce tableau que vous voyez. Et immédiatement, en pensant à ces émotions, j'ai également retrouvé celles que j'avais ressenties en écoutant cette musique, le Vapensiero de Verdi. La synesthésie n'est pas une maladie, c'est juste une perception différente des choses qui conduit des sens qui normalement ne sont pas reliés entre eux à entrer en relation. Par exemple, vous entendez la note de musique mi et vous la voyez bleue ou verte. Vous goûtez une pomme et le goût de cette pomme va vous évoquer une forme géométrique. C'est inné, c'est involontaire. Il y a une multitude de synesthésies différentes. Cela concernerait, d'après des évaluations discutées, environ une personne sur 2000, discutées car la plupart des synesthètes ignorent être synesthètes jusqu'au moment où ils découvrent l'existence du phénomène. Grâce à ma synesthésie, mes émotions, mes pensées, mes associations d'idées, comme vous avez pu le voir, ma petite voix intérieure, tout m'apparaît sous forme de couleurs, de formes, de goût, de mouvement. Ça enrichit la perception du monde. Et les tableaux que j'essaye de faire pour représenter tout cela sont à peu près aussi fidèles à la perception, par rapport à la perception originale qu'un arrêt sur image par rapport à un film de 3 heures ou bien une photo de gâteau au chocolat par rapport à un vrai gâteau au chocolat. Mais c'est quand même beaucoup plus parlant que les mots. Les mots ne disent rien du monde et c'est ce que j'ai essayer de peindre dans ce tableau. En bas, sur la gauche, vous avez le réel, les émotions qui m'inspirent, les pensées, au-dessus l'imaginaire, au carrefour de l'imaginaire et du réel, la voix. Et petit à petit, vous avez ce rétrécissement en allant vers la droite quand il faut faire passer toute cette richesse intérieure dans cette toute petite impasse, les mots. Pendant toute mon enfance, je me suis demandé pourquoi on n'avait pas inventé des mots spécifiques pour dire toute cette richesse. Pourquoi on n'a pas inventé un mot spécifique pour parler de la joie qu'on éprouve quand on regarde la lumière du soleil dans une feuille? Pourquoi on n'a pas inventé un autre mot différent pour dire la joie que l'on éprouve quand on revoit son enfant ou quand on voit son conjoint? Ça n'a pourtant rien à voir. Probablement parce que ça n'a pas été jugé utile. Et de fait, les recherches récentes sur la synesthésie tendraient à montrer que nous aurions tous, tout enfant, ces liaisons nerveuses en plus qui expliquent la synesthésie. Mais nous les perdons petit à petit. Il n'y a pas de fatalité à ça, les mots sont un cadre, c'est une convention qui nous permet de communiquer. Maintenant, rien ne nous interdit de conserver la richesse de notre perception. Pourtant, nous ne le faisons pas, nous nous enfermons dans le cadre des mots. Nous rétrécissons notre perception du monde à ces mots, alors que rien ne nous y oblige, probablement parce que l'on pense que c'est ce que les autres attendent de nous. Dans l'Antiquité, l'étude des langues anciennes, réalisée sur les langues anciennes, a montré que les couleurs ont été perçues dans un ordre très particulier. D'abord le noir, le blanc, le rouge, le vert ou le jaune, et finalement le bleu. Donc cette mer que vous voyez bleue, les Grecs, dans l'Antiquité, la voyaient pourpre, par exemple. À l'inverse, là où vous voyez de la neige, un Écossais pourra penser à un des 421 mots utilisés dans sa langue pour parler de la neige. Et forcément, ça a un impact sur la manière dont on voit le monde et dont on le perçoit. C'est probablement ce dépaysement, d'ailleurs, que nous cherchons en allant à l'autre bout de la planète pour découvrir de nouveaux paysages, certes, mais aussi de nouvelles manières de voir, de nouvelles manières de percevoir. Et très curieusement, personne ne fait ce voyage qui peut être tout aussi fascinant, qui consiste simplement à demander à son voisin ou à sa voisine ta perception du monde, ta petite voix intérieure. Elles te disent quoi ? Si je vous fais voyager dans ma synesthésie, vous entrerez dans un monde où utiliser un même mot reste la meilleure garantie de ne pas se comprendre. Quand j'ai travaillé dans la diplomatie financière, il y a environ 13 à 14 ans, il y avait un terme qui était très à la mode, c'était « politique saine »,« sound policies », qui était utilisé pour désigner les politiques que devait mettre en place un pays pour bénéficier d'une aide ou d'une réduction de dette. Dans la vision de l'ONU, « sound policies », c'était un respect global des droits de l'homme et pas trop de corruption. Pour le FMI, c'était équilibre budgétaire, point. Pour la Banque mondiale, c'est la vision de l'ONU, celle du FMI, et puis d'autres choses, des investissements dans le développement économique au sens large, l'agriculture, l'urbanisation, les transports. Maintenant, ces trois organisations internationales, vous les mettez à la même table, sur le même texte, en utilisant ce même mot. Visuellement, vous voyez tout de suite que les incompréhensions vont être très nombreuses. Vous pourrez peut-être saisir toute la beauté du langage diplomatique qui consiste à donner l'illusion d'un accord là où il n'y en a pas nécessairement pour pouvoir avancer, mais vous comprendrez aussi pourquoi il y a besoin ensuite de toute une bureaucratie pour gérer ce qui arrive ensuite. Entrer dans ma synesthésie, c'est également appréhender un environnement où les pensées et les émotions apparaissent en même temps comme une carte satellite et au niveau microscope. J'ai représenté dans ce tableau la vision qui me vient quand je pense, dans un roman que je suis en train d'écrire, à la rencontre entre le personnage principal, Arthur, et son amie Bérénice, à un moment où Bérénice s'est blessée, la manière dont ils vont tomber amoureux, puis se perdre de vue. Derrière cette vision d'ensemble, vous avez plein de visions plus microscopes qui correspondent à des détails du chapitre, à des éléments de caractère des personnages. Par exemple, le tableau sur votre gauche désigne et illustre la manière dont Arthur voit le caractère de Bérénice, une jeune fille joyeuse qui est pleine d'espoir, mais qui présente aussi des idées sombres incompréhensibles. Si je fais varier les circonstances de leur rencontre, s'ils se rencontrent à la plage, si le caractère d'Arthur est différent, si Bérénice perd ses idées sombres, immédiatement, la vision que je vais avoir du chapitre va se modifier, à la fois au niveau satellite et au niveau microscope. Vous vous demandez probablement à quoi ça sert d'être synesthète. C'est une question difficile dans la mesure où c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, on est avec. Mais on peut s'en jouer et s'amuser avec. À titre personnel, je trouve que c'est une grande richesse d'être toujours à la frontière entre deux cadres, celui synesthésique dans lequel je pense et celui des mots dans lequel j'essaye de communiquer aujourd'hui. Se jouer des cadres, ça veut dire par exemple ne pas brainstormer au niveau des mots, mais au niveau des perceptions et des sensations qui précèdent ces mots. Je suis prête à parier que les créateurs de la colle Cléopâtre, dont certains ici se rappelleront peut-être, ont beaucoup plus pensé à l'odeur d'amande de cette colle qu'à ses propriétés de colle en tant que telle. Se jouer des cadres, c'est aussi ne pas se sentir contraint par la manière dont les autres vont recevoir votre message. Ainsi, j'avais envie d'écrire un poème et de faire une peinture qui illustrait la vision synesthésique qui avait donné lieu à ce poème. J'en ai parlé à un éditeur qui m'a dit que ça ne l'intéressait pas et que l'important, c'était le texte. La peinture, on s'en moquait totalement. J'en ai parlé à un galériste qui a eu la réaction inverse. La peinture, c'est le plus important. Le texte, on s'en moque. Et puis, bon, passé un premier moment de découragement, je me suis dit que le plus important, c'était le message. Quelle était la forme, quel était le mode d'expression qui était adéquat à ce message ? Donc, si j'essaye de faire un poème pour exprimer l'émotion que me donne ma synesthésie au quotidien, ça pourrait ressembler à ça. L'incendie dématé, dans la furie des sons, cabré comme un soleil, l'amande du réel aux constellations orphelines, éblouit la pensée, interligne, de vertige inexisté. C'est le poème qui correspond au tableau que vous avez sous les yeux. Pour moi, les deux sont liés et indissociables. Maintenant, les amateurs de poésie seront plus sensibles au poème ou pas. Les amateurs de peinture seront plus sensibles à la peinture ou pas. Mais finalement, peu importe, car ici s'arrête l'aventure de ma perception et ici commence la vôtre.